300 euros par jour pour un vendeur, 150 euros pour un guetteur. Il y a de l'emploi, des offres d'emploi du côté de Grenoble.
Oui, le quartier concerné est situé en plein centre-ville de Grenoble. C'est un lieu malheureusement connu pour être l'un des points de deal de la ville. Il y a malheureusement aussi des règlements de compte. Dernièrement, un homme de 27 ans a trouvé la mort après des tirs. Un jeune de 15 ans avait été tué par balle il y a 2 ans ici même. Et donc maintenant, il y a carrément des offres d'emploi inscrites sur les murs. On peut y lire qu'on recherche par exemple un vendeur, 300 euros la journée, on cherche des guetteurs, on recrute en fait des petites mains, et pour le faire, et peut-être parce que c'est efficace, on l'écrit directement sur les murs, c'est affiché, donc regarde tous, les habitants du quartier découvrent cela, et cette curieuse campagne de recrutement montre la banalisation finalement du trafic de drogue. On ne se cache plus et on peut recruter, c'est France Travail des dealers sur les murs.
32-16 pour en parler avec les jeux, avec les grandes gueules, Charles.
Est-ce qu'on est surpris? Les dealers, ça fait longtemps. Les narcotrafiquants, ça fait longtemps qu'ils s'installent dans la société, qu'ils rendent des services, qu'ils ont pignon sur rue.
Ce sont des entreprises, évidemment, maintenant.
Qu'ils ont des chaînes Telegram auxquelles les gens s'abonnent, qu'ils tiennent au courant leurs clients des dernières nouveautés, des dernières réductions, des temps de livraison qui se sont améliorés.
Des tendances du moment.
Voilà.
Donc des nouveaux produits qui sont arrivés.
C'est une espèce de...
Mais alors du coup, on l'accepte finalement. Parce que tu dis, est-ce que ça nous étonne? On est dans la fatalité.
Moi, je dis pas qu'il faut l'accepter, mais on a démissionné sur la question des quartiers difficiles, etc. Pas du narcotrafic, parce que les policiers font ce qu'ils peuvent, mais ça prend une ampleur telle. Je lisais là, mais je crois que je le lisais dans le livre du jeune Glucksmann,
que certains
douaniers, maintenant, quand ils ouvrent un caisson dans lequel ils suspectent la présence de drogue, se retrouvent face à une caméra et un message enregistré qui leur dit « Maintenant, nous avons vos têtes, nous saurons vous retrouver ». Donc, les narcotrafiquants ont des moyens qui sont inouïs. Il y a énormément de corruption. Donc moi, je pense qu'on n'a pas, en réalité, on ne prend pas le sujet vraiment, puisque, je le dis souvent, il y a une impunité en même temps pour les consommateurs. Et je pense qu'on n'arrivera jamais à endiguer le narcotrafic si on laisse l'impunité pour les consommateurs. Il faut qu'on choisisse.
Flora ?
Autant il y a plein de sujets de société sur lesquels je trouve qu'on a toutes les solutions, mais que les politiques ne les mettent pas en œuvre, et je ne comprends pas pourquoi c'est bloqué alors qu'on sait ce qu'on doit faire. Autant sur la question du narcotrafic, j'ai pas entendu de bonnes solutions vraiment efficaces, et j'ai l'impression que c'est un peu comme sur la fiscalité. Déjà, ça se joue à l'échelle internationale, ça se joue pas tellement à l'échelle nationale. La mondialisation est malheureuse sur les drogues également. Je sais pas trop comment on l'endigue à l'échelle d'un quartier. Un des débats de la présidentielle qui est encore un terrain vague, c'est qu'est-ce qu'on a à dire sur les narcotrafics, qu'est-ce que les politiques proposent. Par exemple, Bruno Retailleau, je l'ai entendu récemment sur la castration chimique pour les violeurs d'enfants. Pourquoi pas, c'est une solution pourquoi pas intéressante. Je l'ai pas entendu là-dessus. Raphaël Glucksmann, j'ai lu dans son livre que il fallait endiguer absolument les narcotrafics, mais il m'a pas dit comment.
La solution, c'est peut-être quand même de pénaliser le consommateur.
Donc
c'est déjà le cas.
C'est ce que je dis.
Rassemblement national qui nous promet la sécurité toute la journée, je les ai pas entendus nous dire comment. J'attends des. Enfin, j'ai pas vraiment d'idée moi non plus.
Moi, je pense aux jeunes qui voient ça et qui voient finalement 300 euros la journée.
Net d'impôt. Hein.
Non, mais 300 euros la journée. Comment tu vas lutter contre ça et dire aux jeunes, mais non, reste à l'école, travaille, t'auras un boulot, etc. C'est compliqué parce que là, t'as une concurrence terrible.
C'est vrai, j'ai un neveu qui cherche un job d'été. Il m'a dit, mais moi, je veux gagner 2000 euros par mois. Je lui ai dit, t'es mignon, t'as 17 ans, t'as aucune qualification.
Quand t'es serveur, tu peux gagner ça pour boire.
Hein. Mais il faut travailler beaucoup, charbonner.
C'est difficile parce que les mineurs, ils sont pas tellement
employés. Et je lui dis, mais t'as des exigences. Et c'est vrai que les jeunes aujourd'hui, ils ont des exigences tout de suite.
Moi, j'ai travaillé à 16 ans comme serveur à Monaco.
Oui,
à Monaco, c'est plus facile.
Eh bien, les gens vont dire, oui, mais t'as 17 ans, tu dis 300 euros par jour.
T'as 9000 euros par mois.
Juste pour
guetter.
Ah oui, pour ne rien faire, bien sûr. Et puis derrière, c'est l'impunité.
C'est implacable.
C'est merveilleux parce que
on
c'est
dit,
l'impunité.
Tu t'assois sur une chaise à l'entrée de la cité et tu nous préviens quand les flics arrivent.
C'est l'impunité de tous les côtés. Le consommateur est impuni. Ouais. Et le guetteur est impuni aussi.
Après, c'est difficile de punir un guetteur puisque, comme le dit Alain, il fait rien.
Il est assis.
T'es assis, tu cries police, police ou je sais pas ce que tu cries.
Et tu pars en courant.
Ou t'es là, tu dis.
Mourad,
déjà, qu'est-ce qu'on a effacé les messages tout de suite, c'est pour savoir.
Combien tu payes tes guetteurs, toi, Mourad?
un petit peu moins cher.
Mais, l'exploitation.
Mais j'ai pas les meilleurs.
Qu'est-ce que tu en dis?
Ce que je dis, que je répète aux grandes gueules, je veux dire, c'est assez. Ces chiffres nous démontrent, d'abord, une première chose, c'est que c'est du business, on a une offre et une demande. Et la politique aujourd'hui dans notre pays, ça a toujours été d'attaquer l'offre et de sanctionner l'offre. Alors que moi, je pense qu'il faut sanctionner la demande. Et ça démontre aussi l'immensité de la demande, le pouvoir d'achat de la demande à travers les chiffres qu'on voit qui sont hallucinants, 300 euros par jour, ce qui prouve que c'est une clientèle qui a les moyens et qui est multiple. Parce que pour proposer 300 euros par jour, il faut en vendre du cannabis ou de la coke. Voilà, donc ça veut dire que la clientèle est multiple.
Ça montre le business que
ça montre l'immensité du business. Donc c'est bien sur la demande qu'il faut taper, qu'il faut sanctionner, parce que demain matin, si leur chiffre d'affaires il passe de 10 patates à une patate, c'est réglé. Je termine sur une chose. Et le deuxième problème, c'est qu'on est dans une société consumériste à outrance et que on a affaire à des gamins qui aujourd'hui. Leur seule façon d'être un acteur de la société consumériste, c'est ça. Parce que si c'est pas avec les 1350 ou 80 euros du SMIC qu'ils vont pouvoir être un acteur de la société consumériste. Ils se sont mis dans des habitudes de consommateurs grâce à la drogue, un niveau de vie qu'ils n'auront jamais, jamais de façon honnête, si j'ose dire. Et je sais pas comment on va solutionner ça. Je pense que tous les politiques qui nous apportent des solutions sont des bonimenteurs. Aujourd'hui, on n'a pas de solution. Après, il y a peut-être la solution Trump, sur les bateaux qui passent de la Colombie à Miami, il envoie un missile. Bon, je sais pas si c'est. Oui, c'est ce qu'il fait. Oui.
Il y a un acteur qui propose des solutions, c'est Amine Kessassi, adjoint à la mairie de Marseille et victime dans sa chair du narcotrafic, puisqu'il en a perdu deux frères. Et lui, il propose de légaliser le cannabis, et je pense qu'il a raison, parce que en fait, ça permet se concentrer sur les vrais problèmes, à savoir la vente de drogue dure. Aujourd'hui, le cannabis, est-ce plus dangereux que l'alcool? Je ne sais pas. Est-ce plus dangereux que les antidépresseurs consommés massivement par les Français? Je crois qu'on est le premier consommateur européen. L'alcool, je ne sais pas. En revanche, ce qui est très grave, c'est le cannabis consommé par les mineurs, parce que effectivement, quand on a le cerveau qui n'est pas fini, c'est très dangereux. Et les drogues dures qui sont aujourd'hui en vente. Il faut écouter Mathieu Delormeau qui en ce moment sort un livre sur le sujet. Il dit qu'il a fait une prise de 3 MMC et que ça y est, il était complètement addict et que pendant 2 ans. Donc le sujet, c'est 1, légaliser le cannabis, 2, sanctionner, pénaliser énormément les consommateurs de drogues dures, cocaïne, 3 MMC, puisqu'on sait que c'est des gens qui sont malades, qui se ruinent, et donc faut essayer de faire éviter la première prise.
Pas forcément qui se ruinent, c'est une clientèle de haut niveau.
Écoute Mathieu Delormeau, il explique que dans son centre de désintoxication, il y avait toutes les classes sociales, tous les âges, toutes les catégories. Donc il y a de tout. Et je pense qu'on ferait bien d'écouter Amine Kessassi, à qui je rends hommage sur cette question.
On a Florian qui nous appelle de Grenoble. Bonjour Florian.
Oui, bonjour.
Habitant centre-ville de Grenoble. Question toute bête, en tant que riverain, vous les avez déjà vus, ces offres d'emploi ou pas?
Ouais, écoutez, comme vous l'avez dit, c'est à l'hypercentre. Donc effectivement, la cité, on la côtoie, on la voit et on voit ce qui se passe, on voit ce qui gravite, quoi.
Ça veut dire quoi, on voit ce qui se passe tous les jours, dites-moi?
Écoutez, ça va être redondant ce que je vais dire, mais on voit le trafic qui continue et qui s'agrandit, et c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Mais après, je rejoins ce que Mourad a dit, dans le sens où, au niveau des politiques, aujourd'hui, on a une maire qui est fraîchement élue, qui est hors sol, et quand on parle du sujet de la sécurité, elle va nous dire, écoutez, c'est pas de mon ressort, c'est le ministère de l'Intérieur. Elle, ce qu'elle veut, c'est que les Grenoblois puissent se baigner dans l'Isère. Donc en fait, on a des attentes qui sont différentes entre ce qu'elle veut faire et
la réalité.
Nous, on attend la réalité des choses, quoi.
Mais c'est devenu invivable au quotidien, vraiment.
C'est devenu de pire en pire. La semaine dernière, je suis allé manger au restaurant avec mon épouse et en étant rentré le soir vers minuit, on serre les fesses, on rase un peu les murs, quoi.
D'accord.
Les doigts, et puis voilà, quoi.
Le message au-delà des 300 euros inscrits sur le mur, ces gens-là crachent à la gueule des policiers. Ça veut dire que ça donne l'impression dans une ville qu'on n'est pas protégé.
À partir
du moment où on se permet de cracher sur la gueule des policiers, ça veut dire que les policiers n'ont plus de pouvoir dans la ville.
Exactement, exactement. Et nous, on fait le tampon. On fait le tampon entre ce qui se passe au-dessus, ce qui se passe à côté, et voilà quoi.
Ouais. Alors Florian, restez avec nous parce qu'on a un autre coup de fil qui vient de Grenoble.
C'est mieux payé qu'au GG. Hein.
De Raymond. Bonjour Raymond.
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est moins risqué.
Vous avez entendu Florian dit on est laissé à l'abandon. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors d'abord, je suis complètement d'accord avec lui. Grenoble, c'est une ville qui se dépeuple parce que tout le monde a peur que ça soit le jour ou la nuit. Les boutiques ferment. Ils ferment à cause de ça, parce qu'on ne peut plus se garer, parce qu'on ne peut plus y aller, parce qu'on est toujours importuné. Bénévolement, une fois par semaine, je bosse pour le SAMU social. Donc, je fais la maraude. Donc, pour aller à la maraude, je prends ma voiture et je vais me garer à un endroit sur un parking public, non payant la nuit. Et pour rentrer dans ce parking, il y a un gars qui est assis sur un fauteuil et qui me demande ce que je veux. Et quand je lui dis je veux rien acheter, il fait le tour de la voiture pour savoir je suis pas une voiture banalisée, une voiture de flic. Ça c'est une chose et ça provient de l'ancienne municipalité et comme la municipalité actuelle c'est le prolongement de l'ancienne, il y a aucune raison que ça change. Mais c'est de pire en pire. C'est écrit sur les murs, c'est dans les boîtes aux lettres. Moi j'ai une proposition. Alors elle est complètement farfelue. L'État dit puisque c'est ça, on va prendre l'exemple qu'un gramme d'héroïne, ça vaut 40 euros. L'État dit, maintenant, c'est moi qui vais le vendre. Je le vends à 10 euros dans des boutiques, exactement comme dans comme dans le tabac. J'ai la main sur le... Comme ça, je sais qui en prend, je sais qui se drogue. Et les 30 euros entre les 40 qui vendent et les 10 que moi, État, je vends, ne vont pas dans un marché.
C'est pas stupide, stupide, parce que le business existe. Voilà. Et on n'arrivera pas à l'endiguer. Alors, soit on le contrôle, soit on le laisse contrôler par d'autres.
Je suis sûr que vous augmenterez la consommation.
Voilà. Après, il est vrai que la Cour des comptes se positionne sur le taux de TVA.
Vous augmenterez la consommation de cannabis dans le pays si vous légalisez.
Non, parce que si c'est plus facile d'en avoir, si.
Mais ça a toujours été tellement facile. Moi, quand j'étais au collège, il n'y avait même pas. Quand j'étais
en marché parallèle.
Non, mais quand j'étais au collège.
S'il y a des boutiques qui en vendent, ça sera jamais plus facile.
Excusez-moi, mais quand j'étais au collège, il n'y avait pas encore ni Snap ni Telegram. Il y avait toujours un dealer à Langres. On lui demandait ce qu'on voulait à partir de la 5e.
On ne peut pas communiquer sur les méfaits de la consommation. On ne peut pas communiquer sur les méfaits de la consommation de cannabis parce que ça, c'est censé ne pas exister. Regardez l'impact des campagnes de communication sur l'alcool et sur la cigarette.
Bah
ça
oui.
a plutôt fait réduire
et
la consommation.
Et par ailleurs, en Espagne...
Peut-être que ça aurait le même effet sur les drogues.
En Espagne...
Comment les Américains ils ont fait pour l'alcool, pour les bootleggers?
On n'a jamais eu autant bu qu'à l'époque de la prohibition aux États-Unis.
En Espagne, le cannabis est légal et par contre, il faut être inscrit avec sa pièce d'identité dans un cercle pour avoir accès. Et si vous parrainez un mineur, vous vous faites radier.
Il
n'y
a plus de narcotrafic en Espagne.
Excusez-moi, si vous êtes un majeur qui consomme du cannabis, vous avez le droit. Si vous parrainez un mineur ou vous en donnez un mineur, vous êtes radié à vie de tous les clubs. Donc vous avez aucun intérêt à le faire. Donc quand vous êtes consommateur, vous faites en sorte que les mineurs autour de vous.
Mais moi, je voudrais savoir dans les pays où.
Donc c'est le meilleur moyen pour protéger les mineurs.
Je voudrais savoir, dans les pays où on a dépénalisé le cannabis, est-ce que le narcotrafic a chuté? Je suis pas sûr de la réponse. Parce que je comprends bien votre histoire, c'est pour que ça n'apparte, que ce soit plus les méchants qui s'occupent de ce trafic, ça serait l'État qui prendra en main l'économie du cannabis. Je suis pas sûr que l'économie.
En tout cas, le business a chuté.
Que nationaliser l'économie du cannabis mette un terme au trafic parallèle.
Olivier, le business a chuté parce que le cannabis représente une part importante du business. Donc forcément, le business a chuté et est moins rémunérateur pour tous ces gens-là.
Merci à Florian, merci à Raymond d'avoir été avec nous. Est-ce que les dealers qui affichent les
300 euros par jour,
qui affichent les offres d'emploi et les salaires, est-ce qu'ils sont en roue libre? Oui, ils sont en roue libre. 100%.
100%, je crois que c'est jamais arrivé.
Il n'y en a pas eu beaucoup. Quoique ces temps-ci, si, ça, de plus en plus, c'est une sorte de radicalité. Ouais.